175 000 participants sur tout le territoire selon le ministère de l'Intérieur, 250 000 selon la CGT, des ordres de grandeur de participation comparables à la première journée des Gilets jaunes et un nombre d'interpellations voisin de celui du fameux troisième acte des mêmes Gilets jaunes. La journée de mobilisation spontanée n'a pas démérité pour ce qui est de la mobilisation, tout en étant riche d'enseignements politiques sur l'état du pays au lendemain de la décision d'Emmanuel Macron de nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, sans allocution télévisée pour expliquer son choix de ne pas dissoudre, alors que la majorité des Français était favorable à une telle mesure de traitement de la crise institutionnelle. La colère gronde dans le pays, mais une colère divisée. Au milieu de tout cela, Lecornu, qui promet, comme ses deux prédécesseurs, un changement de méthode, sera-t-il un pompier ou un énième pyromane ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 10 septembre 2025, il est 21h37, nous sommes une nouvelle fois en compagnie de notre cher Iruma. Tu vas bien ?
Ça va, j'ai mieux paramétré mon micro cette fois.
Très bien. Ouais, il y avait quelqu'un qui demandait si j'avais pas un son un peu faible en entrant, donc peut-être à vérifier. Ce soir, donc, on va traiter du sujet, c'est un live spécial, donc encore une fois, on répondra à vos questions prioritairement les questions dont dans ce live, il n'y a pas de live privé par la suite. En revanche, petite précision, il n'y a pas, je l'ai dit sur le canal Telegram, mais pour les gens qui ne suivent pas sur Telegram, il n'y a pas de bulletin cette semaine parce que je ne peux pas tout faire. Le bulletin, ça me prend une bonne demi-journée habituellement de le préparer, entre tout. Et d'habitude, c'est le mercredi. Et j'ai passé une partie de mon mercredi, la partie en tout cas que je consacre d'habitude au bulletin, à suivre, à monitorer la situation en France pour vous faire ce live ce soir. Donc il n'y aura pas de bulletin. Je dirai quelques mots malgré tout des quelques grosses actualités géopolitiques qu'il y a eu à la fin. De mon petit exposé, comme ça vous l'aurez quand même. Mais naturellement, ça sera moins fouillé que dans le bulletin. On doit faire le point sur deux choses, puisque je n'ai pas fait de live finalement hier, contrairement à ce que j'avais annoncé lundi, mais parce que lundi, l'information qui nous avait été donnée par certains comptes Twitter du fait que Emmanuel Macron allait faire une allocution hier soir, mardi, était en fait fausse, hein, puisqu'il n'a pas fait d'allocution, et semble-t-il, ça n'a même jamais été dans l'agenda officiel de l'Élysée. Donc ça a été purement une rumeur journalistique. Est-ce qu'il a pensé le faire et que finalement il ne l'a pas fait et que donc les gens sortiront le scoop de manière prématurée ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas fait d'annonce et à la place, il a été annoncé la nomination de Sébastien Lecornu. On se doutait que ce serait Lecornu si Emmanuel Macron décidait de nommer un Premier ministre. Mais on ne savait pas que ce serait si rapide. En même temps, à partir du moment où il n'avait plus trop le choix, il n'y avait pas de raison d'attendre. Et puis l'idée, pour le coup, c'est qu'il a désigné Lecornu, à charge pour Lecornu, de former un gouvernement. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'Emmanuel Macron fait d'habitude, et a fait les deux autres fois, avec Barnier et Bayrou, les autres fois, il avait pris le temps d'essayer de former quelque chose, un gouvernement qui aurait été quelque part son gouvernement, comme il faisait avant, en voyant, a priori, quel était le Premier ministre qui lui convenait avec le projet qui lui convenait. Là, il a juste nommé Lecornu à charge pour lui de faire le gouvernement. Donc déjà, c'est quand même encore une petite évolution supplémentaire. C'est aussi pour ça que c'est allé assez vite. Néanmoins, ça nous positionne sur une des possibilités que j'avais évoquée lundi. Cette possibilité, c'était que Emmanuel Macron décide, et c'était probablement la plus probable quand on le connaît, décide de ne pas faire de dissolution et de continuer comme si rien n'était. je n'envisageais pas à ce moment-là qu'il continuerait tellement comme si de rien n'était qu'il ne ferait même pas d'allocution pour nous expliquer en gros pourquoi il ne le faisait pas. Hein. Il aurait pu faire une allocution pour dire, en plus, voilà, compte tenu de difficultés du pays, la prochaine notation, l'urgence du budget, etc., on n'a pas de temps à perdre, éventuellement je ferai une dissolution après le budget, je ne sais rien, il aurait pu, même pas, il n'a même pas cherché à emballer tout ça. Donc, il nous a laissé là-dessus. J'ai analysé ça, et je ne suis pas le seul, comme une sorte de provocation, parce que quand on sait que plus de 60% de la population est pour la dissolution... Alors, les élites ne le sont pas, hein, naturellement. Le socle commun n'est pas très chaud, parce qu'ils n'ont pas des sondages géniaux. Vraisemblablement que, je l'avais dit, il y a Lebrun Pivet et Gérard Larcher n'étaient sans doute pas pour non plus. De toute façon, il l'avait dit publiquement. En tout cas, Larcher l'avait dit, et Lebrun Pivet, elle était carrément candidate à être Premier ministre. Donc, c'est comme ça, c'était clair. Elle avait fait son choix. Donc, on est là-dessus, sur le cornu, qui va devoir trouver un gouvernement. Alors, comme je le disais sur X, c'est sans doute pas le pire, le cornu. C'est sans doute le seul qui est à peu près compétent techniquement. C'est ce qu'il a montré au ministère des Armées, en tout cas. Même s'il y a des gens qui ont ressorti des dossiers sur lui à propos de Fessenheim, par exemple, etc., ce qui est tout à fait possible, hein, je chercherai pas à le défendre. Mais en tout cas, même avec ça, il reste malgré tout un des plus compétents du paysage. Donc en soi, c'est pas le choix qui est le plus choquant. Le plus pénible, c'est que c'est la façon dont c'est fait avec un Emmanuel Macron qui véritablement considère qu'il est toujours le roi pour 2 ans. Et donc, voilà, c'est lui qui décide. Hein, mettre des horloges, y compris contre le peuple. Et donc dans cette perspective, naturellement, cette journée du 10, c'était intéressante à observer. Alors, la première chose que je voulais dire, justement, c'est au niveau des chiffres. Au niveau des chiffres, franchement, alors bon, toute la journée, naturellement, il y a eu des doutes, il y a eu des vérifications pour savoir combien ça représentait de gens. On a eu l'impression que ça démarrait fort, et puis que c'était lent, et puis finalement, il n'y avait rien. Enfin, on a tout vu, naturellement, toutes les impressions qui dépendent aussi des tendances politiques. Mais avec les chiffres arrêtés à la fin de la journée, selon moi, force est de constater qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose parce que un soulèvement comme ça, enfin un soulèvement, une manifestation spontané, à l'échelle de tout le territoire, qui mobilise près de 200 000 personnes. Alors, c'est 175 000 d'après le ministère de l'Intérieur, 250 000 a dit Sophie Binet de la CGT. Bon, en général, c'est le ministère de l'Intérieur qui a les bons chiffres. Hein. Je me souviens même, il y a quelques années, il y avait des types qui avaient vérifié et ils s'apercevaient que même les chiffres du ministère de l'Intérieur étaient gonflés. C'est-à-dire que, même le ministère de l'Intérieur met une petite marge pour ne pas être accusé de dire des chiffres trop bas. Bon, en tout cas, on est entre 150 et 200 000 vraisemblablement. Ce qui signifie que dans l'ordre de grandeur, on est quand même sur quelque chose d'important. On est sur quelque chose d'important, surtout quand on pense qu'on était mercredi, on n'était pas un samedi. Le premier jour des Gilets jaunes, c'était 287 000 d'après les chiffres officiels. Donc on serait sur quelque chose comme les 2/3 de la première journée des Gilets jaunes, alors que ça a été fait un mercredi, alors que la première journée des Gilets jaunes, c'était un samedi. Déjà, ça me paraît quand même important. Et deuxième chose, en plus, les Gilets jaunes, c'était vraiment purement spontané. Il y avait que ça, on attendait de voir ce que ça donnerait. Alors que cette fois-ci, on a le 10 septembre, qui est la journée de manifestation spontanée, mais on a d'ores et déjà une journée de manifestation classique, on va dire, et organisée par les syndicats, qui est prévue le 18. Donc on peut penser aussi qu'il y a une sorte d'effet d'éviction de l'un sur l'autre, qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent manifester dans un cadre relativement sécurisé, hein, dans le sens où on sait que, avec ce qui dit syndicat, dit service d'ordre, et dit donc une pratique professionnelle de la manifestation, qui fait que peut-être c'est quelque chose qui peut être plus facilement familial. Donc forcément, on peut penser que ça a pu aussi jouer éventuellement à la baisse. J'écoutais ce matin Olivier Faure sur France Info, qui était interviewé et qui disait que ce qu'il attendait en gros, c'était le résultat de la mobilisation du 18. Pour lui, la journée d'aujourd'hui, c'était important, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'est la journée du 18. Il a redit tout à l'heure sur X la chose suivante, d'ailleurs, puisque je l'ai noté. Il a gardé le chiffre de 200 000, il a arrondi, il a coupé la poire en deux, et il a dit la chose suivante: 200 000 manifestants ont aujourd'hui exprimé leur exaspération et leur colère. Très nombreux jeunes étaient présents. L'immense majorité s'est mobilisée sans violence. Le pouvoir doit les entendre. Et juste alors, la version que j'en ai est coupée. Mais juste après, en fait, il disait qu'en gros, il y aurait la mobilisation du 18, que nous, donc c'était le Parti Socialiste et vraisemblablement le reste du NFP, nous accompagnerons. Donc avec l'idée que pour le Parti Socialiste, malgré tout, il y a une logique ou une habitude ou un réflexe à coopérer dans la manifestation, dans l'organisation de manifestation avec les syndicats. C'est vrai qu'il y a une tradition là-dessus. Alors que l'organisation ou la jonction avec des manifestations spontanées, c'est pas tellement dans la culture du truc. Donc ils ont pris ça comme un signal important, mais pas comme quelque chose auquel ils pouvaient s'associer eux directement. Donc à soi, c'est intéressant aussi, malgré tout. Hein. Ça montre qu'effectivement, il y a peut-être des gens tout simplement qui attendent le 18 pour manifester. Alors, c'est vrai, encore une fois, donc, que le volume est très très loin de ce qu'étaient les manifestations sur les retraites, par exemple, hein, où on était atteint, je crois que c'était totalement historique, on a atteint près de 2 millions de manifestants à l'échelle du pays. Mais encore une fois, les manifestations sur les retraites, justement, il y avait les syndicats qui étaient dedans, c'était organisé, ça avait eu le temps de monter, etc. Donc l'organisation était là, il y avait le parti politique, il y avait tout le monde. Là, sur une manifestation spontanée, très honnêtement, sur les chiffres qu'on a, on peut pas dire qu'il y a rien eu, on peut pas dire que c'est un flop, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire ça. J'avais redit lundi hein, qu'il fallait pas s'attendre à ce que tout tombe. Alors j'aurais pu dire comme au Népal si ça s'était passé, si ce qui s'est passé au Népal s'était passé à ce moment-là, mais si c'était tombé aussi vite. Parce que c'était improbable. Pour moi, je vous l'ai dit, c'était une étape. Et ce qui va être intéressant, c'est la façon dont ça pourrait se construire dans la durée. Est-ce que ça va continuer en parallèle de ce qui se passera avec les syndicats? Est-ce que ça va s'associer et donc on va se retrouver avec des choses régulières, comme c'était le cas pour les Gilets jaunes, mais grossi des syndicats et grossi de partis politiques? Ça, on va voir comment ça se passera à partir de la semaine prochaine. En tout cas, clairement, pour ce qui est de la mobilisation, on est au même niveau que le début des Gilets jaunes, grosso modo. Pour la violence, on est déjà sur quelque chose de plus violent, parce que la première journée des Gilets jaunes avait été peu violente. C'était le troisième acte, vous savez, le fameux troisième acte, quand il y a eu véritablement les violences à Paris, etc., où il n'y avait pas tellement de monde. Hein. À l'échelle du pays, il y avait moins de 150 000 personnes, et à Paris même, il y avait, je crois, 5 500, c'est le chiffre que je cherchais tout à l'heure, 5 500 manifestants, pour la très grosse manifestation des Gilets jaunes, où il y avait vraiment eu les combats avec la police et tout. C'était une légion, en fait, une légion de Gilets jaunes qui était à Paris. Et il y avait eu, sur le territoire national, j'ai regardé les chiffres là aussi, on était sur quelque chose comme, je vais vous donner les chiffres exacts, euh, 412 interpellations à Paris, dont 378 gardes à vue, et 117 au total en France. Donc ça devait faire 530 interpellations à peu près. Aujourd'hui, il y en a eu 473 quand même, hein. Donc c'était quand même important, le 5 niveau engageable. Alors, il y a aussi une chose qui a changé depuis 7 ans, c'est la politique du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des consignes qui sont données pour arrêter les gens tout de suite, pour être beaucoup plus dans l'interpellation, justement. Donc, ça peut jouer, naturellement, à la hausse. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut voir aussi, c'est le dispositif policier. Et on en avait parlé lundi, 80 000 policiers, c'est et gendarmes, c'est tout à fait colossal. Des policiers et des gendarmes qui, en plus, étaient sur une première réunion, donc c'est pas un moment où il y a déjà de la fatigue, où les gens ont tendance à être particulièrement violents, etc. C'est encore très dans le contrôle. Donc, arriver à ces chiffres-là et à ces niveaux de violence pour un truc spontané et face à un tel dispositif policier, qui, à un certain endroit, avait sans doute été dissuasif pour un certain nombre de gens qui ont eu peur des affrontements. Je pense que c'est tout à fait honorable, entre guillemets, en tout cas, que clairement, ça montre qu'il y a une tension, et ça montre que le mouvement est là. Et donc dire ça n'a rien à voir avec le premier jour des Gilets jaunes, c'est un flop, etc., ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et je suis, et c'est un des enseignements de la journée. Alors, la gauche est contente, hein. Mélenchon est satisfait, Olivier Faure est content, Sophie Binet, et tous disent que c'est un succès, et très honnêtement, je pense qu'on doit dire que oui. Maintenant, effectivement, c'est un succès de gauche, pour le coup, parce que le phénomène... Alors, à voir si en réalité, dans la population qui a été drainée, notamment, je pense, en milieu périphérique, parce qu'on a surtout vu des images de ce qui se passait en ville, sur les rassemblements, sur des ronds-points et tout, j'ai pas vu grand-chose. Pourtant, semble-t-il qu'il y avait quand même pas mal de blocages, et c'était vraiment dispatché sur tout le territoire, donc c'était pas que dans les villes. Hein. Donc, à voir quelle était la sociologie dans la ruralité, mais enfin, ça, on n'a pas trop vu. Maintenant, le fait que ce soit mercredi aussi, forcément, ben, vous avez moins de gens qui travaillent, qui sont là, quand vous faites un samedi. Inversement, comme c'est un mercredi, ça évite aux lycéens d'aller au lycée, et donc forcément vous avez plus de jeunes. Et semble-t-il que ça a été effectivement assez jeune, surtout dans les grandes villes. On a vu clairement oui, une population jeune qui s'agitait. Donc ça joue aussi ça, sur la sociologie du mouvement et sur la composition. On a vu effectivement beaucoup, il y a eu un côté très gauchiste dans certains endroits qui n'était pas très surprenant, comme à Rennes par exemple, où ils ont fait un grand feu en tournant autour, c'est une tradition bretonne j'ai envie de dire. Mais donc ce qu'on a pu voir toute la journée en revanche, c'est que dans le Twitter de droite, on va dire, c'était vraiment anti ce mouvement. Ça m'a vraiment frappé. Et pas seulement, alors il y a bien sûr le côté droite bourgeoise, c'est la grande peur des bien-pensants. On sent, franchement, quand vous regardez les informations des médias, on va dire, oui, bourgeois, c'est-à-dire en gros les élites non gouvernementales, quoi, les gens qui dirigent, et puis même la bourgeoisie de droite sur Le Point, la bourgeoisie centriste, vous voyez que ces gens ont eu peur. Hein, ils ont eu peur encore, comme d'habitude. Que ça dégénère, qu'il y ait des atteintes aux biens, etc. Et donc, ils étaient très rassurés. Et je notais en particulier la façon dont Géraldine Vestner du Point s'est précipitée à la mi-journée pour aller dire « Mais voilà, il n'y a que 29 000 personnes, c'est un flop ». Elle a corrigé le soir en reprenant uniquement le chiffre du ministère de l'Intérieur, bien évidemment. Je ne lui jette pas la pierre parce que c'est sans doute le plus juste, mais tout de même, en disant actualisation, machin, elle n'a même pas commenté, mais on sentait qu'elle se disait qu'en fait, non, du coup, ce n'était pas un flop. À 175 000, ce n'était pas un flop. Mais surtout, même donc ce côté bourgeois de droite, à la limite, c'est pas. Voilà. Mais même, on va dire, les médias, genre droite dure, genre sur Frontière, par exemple, on voyait une présentation du mouvement qui était extrêmement négative. Alors, ça se comprend aussi parce que les mecs étaient reçus très négativement dans des rassemblements assez gauchistes, avec Siamo Tutti Antifascisti, etc. Les mecs leur balançaient des trucs et tout. Donc, je suis d'accord qu'il y a une. Mais c'est un enseignement politique, à mon avis, important de cette journée. C'est que, véritablement, il y a eu ce côté, la même mise de gauche a été réussie. Elle a été réussie parce que, et ça, c'est un truc quand même qu'il faut dire, c'est qu'on a vu beaucoup. C'est assez navrant, mais en même temps, c'est tout à fait logique de la part de la droite. Dès que la gauche a commencé, avec Mélenchon, etc., à encourager le mouvement, et forcément en lui accolant surtout des revendications de gauche, hein, toujours dépenser plus de pognon, etc., les droitards ont dit ah ben voilà, ça y est, c'est récupéré par la gauche, donc c'est de la daube, on n'ira pas de toute façon parce qu'on travaille, etc. Bon, ça vous savez. Mais je trouve que ce réflexe est assez de la part de gens qui souvent en plus sont très militants, hein, parce que c'est souvent ces commentaires de gens qui sont sur X, etc. Ça a été un abandon en race campagne, quoi, je veux dire. Les mecs, dès qu'ils voient trois gauchistes arriver avec leurs revendications, ils disent ok, on vous laisse le mouvement, on fait plus rien. C'est quand même. C'est logique, hein. J'ai envie de dire c'est très logique, mais j'ai toujours du mal à voir, même si mes modèles le disent tout à fait, j'ai toujours du mal à admettre tellement ça paraît irrationnel comme démarche. Mais effectivement, c'est la gauche qui fait les révolutions, c'est pas la droite. Et donc la droite, il suffit qu'il y ait un gauchiste qui arrive dans la révolution pour dire un truc de révolutionnaire gauchiste. Tout de suite, la droite dit ah non, ça non, le mec il laisse tomber. Et après, du coup, ils veulent que ça foire, parce que forcément, s'ils y sont pas, ils veulent pas que ça fonctionne. Et très clairement, j'ai vu ça toute la journée. Hein. J'ai été tagué très régulièrement pour des gens qui regardaient, ça marche pas, etc. Oui, si vous voulez, ça marche pas comme vous voudriez. Oui, c'est un truc de gauche, d'accord. À la fin, c'est un truc, forcément, si vous n'y allez pas et que vous laissez les gauchistes le faire, forcément, c'est un truc de gauche. Mais ça veut pas dire que ça a pas fonctionné. Et ça a fonctionné, ça montre qu'il y a aussi une colère dans le pays, parce que je suppose qu'il y a quand même aussi des gens qui sont pas forcément très de gauche qui ont plus ou moins soutenu le mouvement. Mais en soi, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une fracture dans cette colère et qu'elle est effectivement divisée. Et peut-être qu'il est moins possible qu'elle s'exprime de manière pas politique, mais enfin comme avaient fait les Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes, à la limite, on ne se posait pas de questions, il y avait une synthèse. Là, ça montre surtout, je pense, que le clivage gauche-droite est quand même de retour et que d'un côté, et qu'il y a suffisamment des revendications antagoniques pour que ce soit très difficile d'organiser un mouvement global comme ça. C'est-à-dire que tout simplement, pour moi, il y a une petite mentalité justement de 1871 qui se met en place. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les gauchistes qui sont prêts à descendre dans la rue, mettre du bazar, et de l'autre côté, vous avez une droite qui est pour réprimer la commune, en fait. Donc on bascule plutôt vers quelque chose comme ça. Et il y a tout un tas de sondages qui le montrent. Hein, quand vous regardez les derniers sondages qui sont parus sur la structure du vote des populations, vous avez de plus en plus de retraités qui votent RN-UDR, vous avez pratiquement la moitié des dirigeants d'entreprise, je pense que dedans il y a beaucoup d'indépendants, hein, donc de petites entreprises, mais c'est extrêmement important, parce que c'est-à-dire que le RN-UDR devient tellement le parti des actifs que ça devient le parti des entrepreneurs aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous additionnez ceux qui votent NFP et ceux qui votent RN-UDR, c'est-à-dire l'ensemble des électorats des partis qui censurent, hein, qui censurent les gouvernements actuellement, donc qui provoquent l'instabilité institutionnelle, vous vous apercevez que ça représente les deux tiers des chefs d'entreprise en France. Et c'est amusant parce que c'est des gens dont on vous dit que c'est des gens, ils ont besoin de stabilité, justement. Alors, en fait, non, dans les faits, les deux tiers veulent que ça saute. Bon, si vous enlevez tous les dirigeants de grosses entreprises qui, effectivement, ont besoin de stabilité, qui vivent de la rente, etc., vous tombez sur beaucoup les petits qui veulent que ça pète et pouvoir faire sauter le système. De droite comme de gauche. Donc il y a un côté affouériste qui, à mon avis, est quand même assez important là-dedans. Et donc tout ceci montre quand même une structure du vote qui fait que beaucoup de ces gens, sans doute, ne veulent pas payer. Et donc c'est très difficile de les rassembler ensemble dans une lutte de rue, on va dire. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, cette droite est prête à soutenir le cornu dans ses... dans ces démarches, ça va être une autre question qu'on attend de voir se déployer, mais c'est un premier, si vous voulez, élément de l'état du clivage qui, à mon avis, est important. Reste à savoir, encore une fois, peut-être qu'on aura des images des ronds-points, etc., pour voir si, dans le peuple de droite, on va dire, il n'y a pas des gens quand même qui ont été moins prompts à se désolidariser du mouvement que les gens qui réfléchissent, les journalistes, encore une fois, de la droite bourgeoise, etc. Voilà, mais c'est pour moi, c'est encore en question à ce stade, mais chez les gens qui pensent ou qui prétendent penser, en tout cas, et qui commandent surtout sur X, on a vraiment le sentiment que, effectivement, à droite, il y a eu une espèce de détestation de ce mouvement, avec l'espoir que ce mouvement échouerait. Et très clairement, moi, je pense que ça n'a pas été le cas. Et donc, ça veut dire qu'en dépit même du fait que vous ayez une moitié de la population politiquement qui rejette ce mouvement-là, ben il a quand même eu des scores comparables à celui des Gilets jaunes, et je pense que c'est à noter. Autre chose à noter importante, bon, j'ai dit une des raisons pour lesquelles sans doute vous aviez beaucoup de lycéens, etc., mais c'est que c'était très jeune dans toutes les images qu'on voyait, la population, et puis très jeune, on a même vu des populations immigrées avec une banderole « Wallah, c'est nous le peuple », hein. Je ne sais plus où est-ce que c'était, mais c'était intéressant, c'était très 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 nouveau clivage. Et ça rappelle une chose importante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « on ne peut pas faire de révolution parce qu'on a des pays qui sont trop vieux ». Vous n'avez pas besoin d'être trop vieux, vous avez juste besoin d'avoir une jeunesse agitée. Alors la jeunesse n'est peut-être pas pléthorique par rapport à la population dans son ensemble, mais je ne pense pas que la jeunesse soit moins agitée que dans d'autres périodes révolutionnaires, et cette jeunesse qui est capable de s'agiter, elle est là, néanmoins. Donc le danger est réel de ce côté-là. Ça, c'est pour la structure politique. Il y a une autre question que je voulais aborder quand même sur la structure politique, parce qu'on entend de plus en plus parler Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus, en particulier dans le cadre de la construction du budget, et comme on est sur, je disais, une renaissance de l'antagonisme gauche-droite, je pense que c'est quelque chose de structurant et qu'il faut y réfléchir un peu. C'est la question de la taxe Zucman. C'est véritablement, semble-t-il, central. C'est un truc qui revenait sans arrêt dans la bouche d'Olivier Faure ce matin. Les LFI en parlent beaucoup. C'est vraiment la mesure phare des LFI, c'est le côté fait payer les riches. Bon. Et j'avais envie de réfléchir un peu avec vous sur cette question, parce que pour réfléchir à l'avis que moi j'ai sur cette histoire de taxe Zucman. Alors je suis pas favorable à la taxe Zucman, on va dire, en pratique. Je vais y revenir, parce que ça aurait un effet contre-productif. Mais je ne pense pas que ce soit une idée inique au point de vue simplement de la justice, de la justice sociale, et de la justice politique surtout, ça qui est important. Mais je pense que c'est une idée qui est peut-être à la fois, qui a sa justice en tout cas, politiquement, mais qui serait totalement improductive, et que ça crée une faille, un gros problème dans le justement dans l'équilibre politique. Et c'est de ça que je voulais parler. Alors l'idée de la taxe Zucman, c'est quoi? C'est de taxer 2% du patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros par an. Alors effectivement, c'est d'un point de vue libéral, c'est une catastrophe, parce que c'est aller taxer du patrimoine, et on n'est pas favorable en tant que libéraux à la taxation du patrimoine. Donc je sais, c'est un impôt sur le capital, il y a l'idée que le capital a déjà été taxé. Il a été taxé par son acquisition, pas pour sa prise de valeur, mais et de toute façon, il y a l'idée, effectivement, et c'est ça qu'il y a dans l'idée de la taxe Zucman, c'est pour ça que ça peut pas être totalement évacué d'un revers de main, je pense. Il y a besoin de l'argumenter un peu. Parce que l'idée de telle qu'elle est présentée, faut comprendre que c'est pour ça que ça a beaucoup de succès chez beaucoup de gens, y compris dans le peuple, c'est ça que je veux dire. Et je pense que même à droite, il y a des gens que ça fait réfléchir. C'est l'idée, en gros, que les gens qui sont très riches, ben de toute façon, leur patrimoine il grossit de plus de 2% par an. Et que donc, si on leur mettait une taxe de 2% sur le patrimoine, et que grosso modo, en fait, leur patrimoine il grossit justement en lui-même, c'est-à-dire il se valorise, c'est pas leur revenu, et que donc, comme c'est en gros le plus gros de leur enrichissement ne vient pas de leurs revenus, qui sont taxés et fortement taxés d'ailleurs, mais vient du grossissement de leur patrimoine. Et que donc, en fait, grosso modo, le fait de taxer les revenus et pas le patrimoine, ça avantage ceux qui ont un très très gros patrimoine par rapport à ceux qui ont même des gros revenus, mais qui n'ont pas de patrimoine. Ce qui n'est pas faux, hein, très honnêtement. C'est-à-dire que ça vous interdit de vous enrichir. Il faut se rendre compte de ça, je l'avais déjà évoqué. Le problème de la fiscalité en France, c'est qu'elle interdit de s'enrichir aux gens. Elle interdit de s'enrichir, mais aux gens qui n'ont pas de patrimoine, en fait, ou qui en ont peu. En revanche, elle n'interdit pas de s'enrichir, les gens dont le patrimoine se valorise. Et c'est là-dessus, surtout, que je voudrais insister. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, et ce qui est important. Et donc, l'idée de la taxe Zucman, c'est on prend une partie de la valorisation chaque année comme une taxe, parce que leur richesse grossit plus là-dessus que leur revenu, et ça n'empêchera pas que leur richesse continuera de grossir. C'est surtout ça l'idée. Hein. C'est l'idée que ça ne rognera pas les patrimoines, ça ralentira juste la façon dont ils grossissent. C'est comme ça que c'est argumenté. Alors bien sûr, comme ce n'est pas des revenus et que c'est de la valorisation de patrimoine, normalement, on dit que, on a tendance à dire que ben, ça les obligera à en vendre une partie, donc forcément ça le rogne, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque vous pouvez emprunter pour payer les impôts en utilisant votre valorisation accrue comme collatéral. Enfin, ça c'est technique, mais c'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, parce que moi ça me pose un problème justement en tant que libéral, le système, c'est que dans un pays comme la France, où vous avez 60% de l'économie qui est de la dépense publique. Et de la dépense publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la dépense de l'argent des contribuables, directement, de le produit des impôts, et de la dépense de la dette qui est contractée en utilisant la solvabilité des contribuables. Bien. Dans un pays comme ça, la croissance globale de l'économie, et donc notamment la valorisation des patrimoines, est en partie le résultat donc des impôts et de l'endettement public. Et c'est le même raisonnement que je vous ai déjà fait à propos du problème des boomers, et notamment des boomers riches. C'est-à-dire, que je vous ai expliqué que ce qui se passait souvent lors des révolutions, c'est qu'au moment d'apurer les comptes publics, vous les apurez généralement en faisant payer ceux qui sont considérés comme ayant été des bénéficiaires nets de ça. Par exemple, si vous considérez que justement les boomers se sont gavés et ont construit et entretenu leur patrimoine avec des très hautes retraites, ben à la fin, vous aurez une révolution qui sans doute va sabrer dans ces patrimoines-là et viser d'abord ces patrimoines pour payer la dette. Pourquoi ? Ben parce que vous considérez qu'une bonne partie de la dette qui a été contractée a servi à enrichir ces gens-là. Ça a été de la captation de dette, si vous voulez. Donc de la privatisation de... C'est ça qui est important à retenir. Hein. Donc c'est pour ça que je parle de... Je dis qu'on ne peut pas totalement écarter, même en tant que libéral, dans une société où vous avez 60% de dépenses publiques, la croissance de l'économie est tellement liée aux impôts, à l'activité de l'État, que forcément, ceux dont l'enrichissement dépend d'abord de la valorisation du patrimoine, donc du dynamisme de l'économie en général... Par exemple, ceux qui ont un très gros patrimoine immobilier, ben, mine de rien, la valorisation de leur patrimoine, elle dépend du fait que y ait des prêts à taux zéro, qu'il y ait les APL, qu'il y ait tous ces trucs. Donc, je parle toujours. C'est ça qui valorise leur patrimoine. Donc, ce qui valorise leur patrimoine, c'est les impôts des autres. Alors, forcément, si la valorisation de leur patrimoine n'est pas taxée d'une manière ou d'une autre pour ça, ça crée un déséquilibre et ça fait que vous pouvez avoir des gens qui sont très riches, qui sont en fait... subventionné par l'ensemble de l'économie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, ça crée un petit problème. Parce qu'encore une fois, une bonne partie de la croissance de l'actif, à ces niveaux, c'est lié à l'activité du pays en lui-même. Et si demain, vous faites une politique d'austérité, ce qui peut être nécessaire pour réduire le déficit, mais si demain, vous décidez de taxer les revenus, etc., ben vous allez avoir une baisse de l'activité. Une baisse des revenus de tous ceux qui touchent leurs revenus, mais vous n'aurez pas nécessairement une fonte proportionnelle de la valorisation des patrimoines, directement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, en maintenant le système et en mettant de l'argent pour financer le système, et par exemple en augmentant la fiscalité sur les classes moyennes pour faire tenir le système, ça peut s'analyser indirectement comme une subvention au maintien du niveau des gros patrimoines. De la même manière que les hautes retraites, ça peut s'analyser comme une subvention au maintien des patrimoines immobiliers des boomers qui, dans un système normal, seraient sans doute contraints de le réaliser petit à petit au fil de leur retraite pour financer leur retraite, justement. Ouais. C'est là qu'il peut y avoir un déséquilibre. Et je pense qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, économiquement. Je pense qu'on fait l'erreur. Alors, peut-être que des gens vont me détruire et me dire qu'économiquement, ça n'a pas de sens en commentaire. Je serais tout à fait ouvert à l'entendre. Mais il me semble qu'il y a quand même un problème quand vous êtes dans un système, que la croissance du système lui-même est financée en écrasant d'impôts toute la population, enfin surtout les classes moyennes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de très haut patrimoine, hein, des gens qui vivent de leurs revenus, qui ne vivent pas du tout de leur patrimoine, et qui tirent leur revenu de leur travail surtout, y compris des hauts revenus, et pas de patrimoine. Écraser ces gens-là d'impôts pour et pas demander d'efforts particuliers à ceux qui bénéficient du travail et des impôts de ces gens-là dans la valorisation de leur patrimoine, là, ça me pose effectivement un problème. C'est pas de l'exploitation des travailleurs, mais c'est de l'exploitation du contribuable, pour moi, partiel. Et donc, idéalement, je dis bien idéalement, et en général, ça, dans l'histoire, ça a toujours justifié. Un effort, on a toujours fait ça, hein. On faisait ça chez les Grecs aussi à Athènes, on estimait que les gens qui étaient plus fortunés devaient prendre sur eux la charge des liturgies, enfin, c'est un réflexe habituel. Le problème, très clairement, c'est qu'économiquement, on ne peut pas faire ça, parce que si on fait ça, les gens peuvent partir, et les gens partiront, de toute façon, c'est le système économique qui est comme ça. On est dans un système aujourd'hui qui est comme ça. Au XVIIIe siècle, c'était difficile aux gens de partir, parce que l'essentiel de la fortune patrimoniale, c'était des terres, et donc vous ne pouvez pas les abandonner. Les émigrés, ils sont partis, ils les ont laissés, les terres. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec les fortunes mobilières, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ce n'est de toute façon pas faisable. Et je pense qu'on a là un problème politique extrêmement profond, c'est-à-dire que vous avez des choses qui, en général, dans ce genre de situation, ont toujours été faites pour essayer de redresser la situation, de redresser les comptes, et qui ne peuvent plus être faites, et qui étaient à la fois perçues comme justes politiquement et efficaces économiquement. Et simplement aujourd'hui, ça serait perçu comme juste politiquement, mais ça n'est plus efficace économiquement. Et donc, on ne peut pas le faire. Et il n'y a pas de moyen de le faire en obligeant les gens de rester, en mettant des exit tax, etc., parce que ce que vous obtenez à la fin, c'est qu'il n'y a plus d'investissement chez vous, et tout se casse la gueule. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Simplement, je pense que tout ceci crée un hiatus entre ce qu'intuitivement les gens ressentent, c'est-à-dire qu'en gros, les très riches se sont beaucoup enrichis en bénéficiant du système général, parce que quand vous vous enrichissez fortement sur 15 ou 20 ans, c'est que vous êtes des bénéficiaires du système. Si vous n'êtes pas des bénéficiaires du système, vous ne vous enrichissez pas, vous appauvrissez. Ce qui est le cas de beaucoup de gens de la classe moyenne qui paient de plus en plus et avec de moins en moins de services publics en face. Bon. Donc il y a clairement une différence avec ça. Et ce que je dis, c'est pour vous expliquer pourquoi les gens ressentent ça. C'est-à-dire que je ne pense pas, très honnêtement, qu'on peut réduire le relatif effet de sympathie qu'attire la taxe Zuckmann chez une bonne partie de la population à une espèce de simple envie ou de volonté punitive à l'égard des riches. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que vous avez tout un tas de gens qui payent et qui ont le sentiment que certains bénéficient de ce qu'ils payent. Et je pense qu'économiquement, c'est partiellement vrai. Voilà. Alors, voilà, je vois des gens qui s'excitent en disant que je suis marxiste et pas libéral. Alors, désolé, en tant que libéral, j'ai du mal, de manière générale, avec le capitalisme de connivence et l'idée que les gens puissent s'enrichir en profitant des systèmes de subventions, des subventions notamment à l'immobilier, et toutes choses qui sont faites avec les impôts et l'endettement qui est fait sur le dos de la population. Je pense qu'il y a aussi un libéralisme d'ordre et que les premières cibles du libéralisme, ça doit être les classes moyennes et les petites gens. Voilà. Alors, je sais que ça choque, mais au bout d'un moment, si le libéralisme, c'est de considérer que c'est à l'ensemble de la population payée et que si on est à 60% de dépenses publiques, ça ne compte pas, il faut continuer à traiter les riches comme si on était dans un système où il n'y a pas de dépenses publiques, et où donc leur enrichissement est exclusivement le fait de leur positionnement et de leur lecture du marché, moi, ça me pose une difficulté, parce que vous n'êtes pas dans le même système. Voilà. Donc de toute façon, ce que je pense, à la limite, n'a pas tellement de trucs, puisque je reconnais moi-même que économiquement, ça n'est pas pertinent de le faire. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la taxe Zuckmann. Ce que je suis en train de souligner, c'est que ça crée une fracture, si vous voulez, un dilemme politique profond dans la société, et que ça rajoute, et ce que semble-t-il, c'est un des dilemmes qui sont en train de devenir structurants sur la discussion politique en France, assez clairement. Et je pense que sur la question précisément du budget, qui va se discuter dans les semaines qui viennent, ça deviendra de plus en plus une question. Et une question qui sera discutée. Et je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais je pense qu'on a tort de croire que c'est un débat qui peut se mettre aussi facilement sous le tapis en disant... soit d'un côté, de toute façon, il n'y a qu'à taxer les riches, ce qui n'est pas vrai, économiquement ça ne marche pas, mais de l'autre côté, dire ça serait totalement inique, ça n'aurait aucun sens, ce n'est pas vrai non plus. Donc, je pense qu'il y a un moment où, justement, il faut essayer de réfléchir à chercher des solutions qui soient à la fois justes et ça. Alors, du coup, je pense que la taxe Zuckmann n'est pas une bonne solution. La meilleure solution, évidemment, ça serait plutôt de réaligner à la baisse la fiscalité. C'est-à-dire de baisser la fiscalité sur les revenus. Ce serait le mieux, ça. De telle manière qu'il y ait plus ce hiatus dont je parlais entre les gens qui s'enrichissent par valorisation du patrimoine et les gens qui s'enrichissent sur leurs revenus. Le problème, c'est qu'on taxe énormément les gros revenus et que donc il y a une interdiction de s'enrichir et que c'est ça qui rend l'idée Zuckmann aussi audible pour autant de gens. Pour de mauvaises raisons, à mon avis, mais si les gens qui sont contre la taxe Zuckmann ne s'empare pas de cette question en essayant de trouver une solution alternative et pense juste qu'il n'y a pas à réfléchir sur la question, à mon avis, ça va au-delà de grosses, grosses déconvenues. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Maintenant, juste un petit mot sur l'actualité internationale, parce que je vous l'ai promis. Alors, il y a eu la frappe d'Israël au Qatar, donc ça, c'est important. Risque d'extension du conflit, mais apparemment... Jusqu'ici, il n'y a rien. Aujourd'hui, Israël, ils ont tapé encore plus fort le Yémen, mais enfin, ça, on est habitué. Il y a eu, bien sûr, les drones russes qui sont vraisemblablement une attaque volontaire, d'après ce que j'ai lu. Il y a même eu, ça aurait même été préparé avec des cartes. Alors, je ne sais pas pourquoi des SIM, c'est peut-être pour ne pas être soumis au brouillage en Pologne. Enfin, un truc qui aurait été vraiment, j'ai lu un article là-dessus, vraiment travaillé, recherché pour préparer en fait cette attaque. Donc, vraisemblablement, ça a été voulu. Donc, les Russes testent. Ils testent alors qu'on est à 2 jours de Zapad, qu'on est dans cette semaine un petit peu dangereuse. Donc, question à savoir où ça va. Sachant que dans le même temps, on a appris aujourd'hui, j'ai vu ça tout à l'heure, que à propos de l'affaire des 10 mosquées là, devant lesquelles il y a eu des têtes de porcs qui ont été déposées, qui a fait une grosse émotion, les suspects seraient des Serbes. Et de nation étrangère est en fuite. Et en fait, c'est un agriculteur normand qui se serait manifesté, qui aurait dit que 2 personnes étaient venues lui acheter 10 aines de têtes de cochon avant les faits et que leur véhicule avait des plaques serbes. Donc tout ceci ressemble à, pour le coup, un côté c'est les Russes encore. On se souvenait qu'ils avaient fait des trucs antisémites avec des Bulgares aussi. Donc là, des Serbes, ça sent aussi les services russes avec la tentative. Au même moment où il devait y avoir le fait du 10 septembre et tout. Voilà, donc à la fois des trucs hybrides et des attaques réelles sur le territoire de l'OTAN qui réagit très mollement. Donc tout ceci est également inquiétant et ça va vers le signe d'une tension. J'ai pas vu de réaction de Donald Trump, sauf une espèce de commentaire sibyllin tout à l'heure sur Truth Social, je crois. C'est très curieux. Alors enfin, non, il y a eu au Népal la chute du gouvernement, très rapide, en 24 heures, les mecs ont tout cramé. Alors, à voir, ce que je vous aurais dit dans le bulletin ce soir, d'après ce que j'essaie de voir rapidement, c'est que je pense qu'on est sur quelque chose de voisin de ce qui s'est passé en Corée du Sud. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement une fin, c'est-à-dire une glorieuse révolution, c'est-à-dire une dernière étape révolutionnaire de la révolution qui avait commencé en 1990. Voilà. A priori, je pense qu'on est assez d'accord avec Antoine, c'est plutôt ça. Maintenant, il faudrait que je voie des choses un petit peu plus dans le détail, mais je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. Auquel cas, on devrait avoir une démocratisation. Enfin, ça a quand même été assez raide comme Glorieuse Révolution, ils ont quand même tout cramé, donc à voir, il faudra surveiller ça dans les jours qui viennent. Et enfin, pour terminer, tout à l'heure, là, a été assassiné aux États-Unis un des principaux influenceurs du camp conservateur, Charlie Kirk. Dont j'ignorais l'existence honnêtement avant qu'il soit assassiné, mais bon, j'ai vu ça. Les images sont assez lourdes d'ailleurs, il s'est vraiment fait abattre en fait, et par un boomer en plus, donc c'est assez symbolique. La droite qui se fait abattre par. C'est Nicolas, c'est littéralement Nicolas qui s'est fait tirer dessus par un boomer en fait. Et ça risque d'avoir des. On voit quand même le durcissement. De la politique américaine, surtout après l'affaire de la jeune Ukrainienne qui a été assassinée dans le métro par un noir. Et je le souligne parce que l'aspect racial semble sortir politiquement aux États-Unis de manière assez forte et assez impressionnante. Et donc voilà, la situation se tend, ce qui montre encore une fois que on n'a pas forcément échappé à la guerre civile aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, mais que il y a le temps que des choses se remettent en place et que clairement la messe n'est peut-être pas dite là-dessus. Voilà, désolé, hein, je voulais faire ce petit point international pour pas que vous soyez totalement privé d'actualité internationale en dépit de l'absence du bulletin. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas s'il est mort, Charlie Kirk. Il me semble que j'en ai parlé avec Hiruma juste avant et qu'il m'a dit que quelqu'un avait dit qu'il était mort. Moi, j'ai vu la vidéo de près du tir qui se prend. Vu comme le sang gicle vite, même s'il est parti à l'hôpital, je crains que. Ouais, ça a l'air chaud quand même. Hein. Voilà.
Selon
Alors,
les
est-ce qu'on a des
dernières
questions?
infos du canal,
Ouais.
le boomer, apparemment, ce ne serait pas lui.
Ah, d'accord. Alors juste, ils ont trouvé un boomer, ils l'ont tapé dessus, c'était du
C'est un
lynchage.
peu ça, ouais. On remercie la bête du Gévaudan pour son don.
Merci.
Les syndicats ne font-ils pas partie des élites à dégager et ne sont-ils donc pas un frein à la mobilisation?
Ah ben alors, sans doute, d'un certain côté, il n'est pas impossible aussi. D'ailleurs, il y a quand même un côté, ben en même temps, c'est logique, hein, le Parti socialiste est plus à droite que LFI, puisqu'il est moins à gauche. Donc, il est plus conservateur en soi. Et donc, c'est normal qu'il favorise, comme expression de la colère, un mouvement qui est encadré et prévu par les syndicats. Alors qu'LFI est parti directement à fond dans le truc qui était déstructuré, totalement spontané, etc. Parce que justement, c'est beaucoup plus purement révolutionnaire, la pure insurrection populaire. Alors que le 18, on a déjà une idée plus encadrée, mais qui dit plus encadrée, dit éventuellement aussi plus large. Parce que vous aurez probablement toute une partie de la population qui est en colère depuis longtemps, qui est en colère depuis la réforme des retraites, qui n'a pas voulu aller manifester dans ce truc dont on a dit tout et n'importe quoi. Et il y a quand même eu beaucoup de... Il y a eu tout... enfin, on va dire toute la propagande du régime s'est mise en place aussi pour dire que ça allait être très dangereux, non aux casseurs, etc., les 80 000 policiers, gendarmes, etc. Donc tout a été fait pour faire peur, on va dire, aux manifestants qui ne sont pas particulièrement violents, quoi. La semaine prochaine, on est sur une manifestation avec les syndicats à la tête, donc une part beaucoup plus conservatrice de la population, et plus y compris de gauche, est plus encline à aller manifester. Maintenant, est-ce que les syndicats sont malgré tout des élites à dégager ? Oui, je pense qu'elles le seront, en grande partie, en tout cas qu'une partie du système paritaire hérité du Conseil national de la Résistance. Ils y perdront beaucoup de pouvoir, ça j'en suis convaincu. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient révolutionnaires et qu'ils ne sachent pas la révolution qu'ils font. C'est comme les parlements d'ancien régime qui veulent empêcher un certain nombre d'évolutions et qui finalement sont les premiers à sauter dans la réforme du régime lui-même. D'ailleurs, les parlements d'ancien régime avaient le sentiment d'incarner la représentation populaire, justement, et à la place de la population, ce qui est un peu une prétention qu'ont toujours eu les syndicats, donc il y a un parallèle là-dedans.
Une question de Yamo. La prévision de note triple B+, est-elle crédible ?
Alors, ça me paraît un peu bas. Surtout que ce que j'ai lu beaucoup, c'est l'idée que de toute façon les agences de notation sont très en retard, donc je pense pas que l'agence de notation rattrapera, parce qu'en fait l'idée, c'est pour le dire, c'est qu'il y a un type sur X qui a montré tableau à l'appui que la dette française était actuellement pricée, c'est-à-dire évaluée à une valeur qui en fait devrait la catégoriser parmi les pays qui sont BB+. Et donc ça montre un décalage entre la notation effective de la France et le prix effectif de sa dette. Néanmoins, est-ce que les agences de notation peuvent rattraper d'un coup ? Je ne pense pas. Je pense qu'elles baisseront la note petit à petit pour se réaligner. Voilà, le premier élément, c'est de baisser la note une première fois, mais après c'est ce que je disais la semaine je ne sais plus si c'était lors du live hebdomadaire ou lundi, une fois que vous avez commencé à baisser et que les circonstances économiques s'aggravent, vous pouvez rebaisser tous les 6 mois, une fois que le tabou est levé, il est levé. Hein. Donc je ne pense pas que ça basculera d'un coup à BB+. Par contre, le fait qu'on ait déjà une note qui est considérée BB+ sur les marchés et que donc ça ne changerait pas grand-chose sur les marchés que la note soit baissée, je pense que ça serait logique. De manière générale, l'agence de notation... alors les marchés peuvent réagir en se disant que même s'ils savaient que ça n'avait pas tellement de valeur, le fait que l'agence de notation soit en retard sur leur propre évaluation et soit particulièrement en retard sur leur propre évaluation fait que malgré tout ils pouvaient toujours ça pouvait toujours valoir un peu plus cher et que forcément ça joue, mais grosso modo voilà, ça ne fera pas une chute de 2 rangs. Et les problèmes, c'est surtout les effets de seuil qu'on dit régulièrement, où en dessous d'une certaine dette, il y a tout un tas d'institutions qui ne peuvent plus acheter. Ça, c'est plus problématique. Mais donc, passer d'un coup à BB+, là, je ne crois pas. Ça serait prendre une trop grande responsabilité sur l'économie mondiale de la part des agences de notation de faire ça. Et clairement, ce n'est pas leur habitude.
Question de Mitch. Si faillite il y a, quels seraient les premiers services à être abandonnés ? Quelles dépenses seront sacrifiées par l'État ?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est celles qui seraient socialement les moins dangereuses, je pense. C'est pour ça que moi, je pense souvent que les retraites baisseraient, parce que les retraités ne peuvent pas faire grève. Les retraités n'iront rien casser. vous aurez beaucoup de gens au RSA qui iraient casser les trucs. S'il n'y a plus de versement de la CAF, ça posera sans doute des problèmes dans plein d'endroits. En revanche, si vous baissez les retraites, il n'y aura pas trop de problèmes. À partir d'un certain niveau, il y aura peut-être un problème pour les gens qui ne voudront pas qu'on baisse les retraites de leurs parents, parce qu'ils seraient à leur charge et que ça bougerait, mais ça bougerait moins vite. Et vu qu'avec les retraites, avec des baisses relatives, genre si vous baissez les retraites de 5%, vous économisez 20 milliards par an, je crois. Si vous les baissez de 15%, vous économisez 60 milliards par an. Je pense, et surtout si vous baissez de 15% que les retraites, on va dire, des deux tiers les plus élevés des retraites, et que vous ne touchez pas aux retraites d'en bas, je pense que vous avez une marge de manœuvre, vous pouvez faire des choses très vite, faire des économies très vite, sans que ça ait aucun effet politique. Donc, clairement, je pense que les retraités sont les plus en danger sur ces trucs-là. À la fois pour les économies que vous pouvez faire rapidement et le fait qu'ils ne sont pas dangereux politiquement. Ils peuvent être dangereux pour les élections, mais de toute façon, vous avez des sondages qui arrivent qui disent de plus en plus aux gens que de toute façon, les retraités vont voter à l'Assemblée nationale. Alors, ils vont même plus se battre pour essayer de les récupérer. Et encore une fois, ce glissement progressif des retraités, d'une autre partie des retraités, vers le RN-UDR, c'est peut-être la première étape de ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est-à-dire d'une espèce de roc, au sens des échecs, d'électorat, entre les actifs et les boomers. C'est-à-dire que le RN est devenu le parti des actifs, mais il est aussi le parti boomer, et très honnêtement, dans les discours du parti du RN, c'est plus boomer qu'actif. Donc il n'est pas du tout impossible que si les boomers partent au RN, vous aurez le centre qui lâchera les boomers et qui deviendra peut-être le parti des actifs à la place. Et à ce moment-là, vous aurez, et vu qu'en général c'est le centre qui tient le pays, vous auriez ce que je disais sur le fait que, grosso modo, les actifs prendraient le pouvoir sur les boomers et ensuite s'allieraient aux boomers contre la gauche, quoi.
La question choix. Je reformule ma question. Nous voyons bien que changer de promesse ne change rien. Avec la note de la France, combien de temps cette situation politique peut-elle tenir ?
Alors c'est difficile à dire. Je ne sais pas si ça change de la note, si ça dépend de la note de la note de la dette. Ça peut. En fait, tout dépend si la note change déjà. Si la France est dégradée, ça va mettre une énorme pression forcément sur le Cornu, qui sera sans doute obligé de trouver peut-être encore plus, parce que on sent qu'il va y avoir une tentation là sur le Cornu de lâcher du lest. Genre de dire, au lieu d'économiser 45 milliards, on en économise 30 et on fait des cadeaux pour essayer de faire passer le budget de la même manière que Bayrou avait fait passer un budget qui était, je crois, légèrement moins sévère que celui de Barnier. Donc c'est peut-être comme ça qu'il arrivera à faire passer un budget cette fois-ci. Mais si jamais on se fait dégrader avant et qu'il y a une pression, il ne pourra peut-être pas lâcher trop de lest. Et s'il ne peut pas lâcher de lest, ça sera très difficile d'avoir un budget. S'il n'arrive pas à avoir un budget, il y aura une censure à un moment donné parce que quelqu'un ne sera pas content. Et s'il y a une censure, on repart sur une dissolution. Donc voilà, c'est très difficile d'évaluer ça, d'autant plus qu'on attend de voir s'il y a un vrai changement de méthode. Il a dit qu'il y aura un changement de méthode. Ça consistera en quoi un changement de méthode de Le Cornu ? S'il y en a un qui est peut-être capable de faire un changement de méthode, c'est lui, parce qu'il est beaucoup plus jeune que les autres, que Barnier et Bayrou, qui étaient deux vieux. Il est plus malin que Bayrou, je pense. Voilà, donc c'est très difficile de dire combien de temps ça peut tenir. Ça dépendra aussi du mouvement social. Est-ce qu'il va se poursuivre ? Est-ce qu'il y aura des répliques dans la semaine ? Voilà, est-ce que ça va gonfler la semaine après ? Est-ce que ça va prendre des proportions de plus en plus importantes ? Je regardais tout à l'heure, je me refaisais l'historique de la mobilisation au Maïdan. Toute première manifestation du mouvement du Maïdan, c'était fin novembre 2013, la semaine du 21 au 27, et il n'y avait que autour de 2000 personnes à Kiev. Et à la fin, ça a fini, vous aviez plus de 100 000 personnes à Kiev quand Yanukovych est parti, quoi. Donc faut regarder aussi la dynamique. Et là, par définition, la dynamique, on ne la connaîtra qu'après avoir plusieurs points de référence. Et pour ça, il faut attendre quelques semaines, quoi.
J'ai plus de questions. Par contre, j'ai une info qui vient de tomber sur le canal.
Oui.
La porte-parole de Caroline Leavitt a été interrogée sur la question de savoir si les États-Unis prendraient des mesures dans le cas du candidat de l'AFD. Je cite, c'est une priorité pour l'administration et le président n'a pas peur d'utiliser la puissance économique et militaire de l'Amérique pour protéger la liberté d'expression dans le monde. Le président Trump sait exactement ce qui se passe. Lui et le vice-président Vance nous aident à rendre l'Europe grande à nouveau.
Alors c'est quoi? C'est à propos des morts, c'est ça?
Non, de l'AFD, du parti AFD qui risque d'être interdit en Allemagne.
D'accord, oui. Bon, ça, je demande encore à voir. S'ils font cette enfin, interdire le premier parti, ça serait quand même super chaud, là. Hein. Ça serait. Mais bon, ça se tend partout, de toute façon. Ça se tend chez nous, ça se tend en Angleterre, ça se tend là-bas. Voilà. On a quelqu'un qui nous pose une question sur Tipeee. Que signifient les nombreux lapsus de Pascal Pro? Avec Gabriel, ah oui, qui prononce mal le nom de Gabriel Attal, et je vous laisse. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait de nombreuses fois, je sais qu'il l'avait fait une fois, mais je n'en ai pas vu d'autres, donc ça m'est difficile de répondre. Donc, ça, c'était sur Tipeee, je ne sais pas si on a d'autres questions.
Non, pas d'autres questions, mais après j'ai pas accès aux questions Tipeee.
Je vais dire bienvenue Le Panourgos sur YouTube. Merci à Montiraf qui a grimpé de rang d'abonnement. Et sur Tipeee, on remercie donc Thomas, Hélène et Jean-Michel qui dit bonsoir. Veuillez trouver cette modeste somme pour vous remercier pour votre travail et la qualité de vos analyses. Je vous remercie. J'en profite pour dire que donc je pense qu'il y aura on fera probablement le live hebdomadaire vendredi soir si on le fait parce que je suis à Paris ce week-end, je devrais être de retour chez Mathieu Bock-Côté samedi soir pour faire le débrief de la semaine un petit peu. Voilà, ça sera l'occasion. Votre soutien, justement, qui est précieux pour la chaîne, me permettra aussi de faire le trajet. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, en terminant, que votre soutien est très important pour nous. La dernière fois, je vous ai parlé du bulletin. Là, je peux vous parler de live privé. Live privé, vous avez eu cette semaine deux lives spéciaux dans lesquels vous avez toute la séance de questions qui a suivi. Et je pense que les deux fois, vous avez pu constater à quel point les questions des souscripteurs sont l'occasion d'approfondir le sujet, d'avoir encore d'autres points de vue que je n'ai pas forcément dans l'exposé qui en général est gratuit. Donc, vous savez à quoi ressemble ce que vous pouvez avoir toutes les semaines en plus du live hebdomadaire dans le live privé. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir pour y avoir accès. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager, à pousser. Et quand vous poussez, surtout si vous le faites depuis un téléphone, encore une fois, je ne sais pas si ça marche sur les PC, mais si vous le faites depuis un téléphone, quand vous poussez, si vous avez assez de boost sur votre compte YouTube, et normalement ça se renouvelle tous les mois, et ben ça vous proposera d'utiliser vos points boost pour booster la chaîne et lui donner plus de visibilité. Donc faites-le, hein, ça nous aide bien pour relancer les campagnes, parce que notamment les promotions ont un peu moins de rentabilité au niveau visibilité. Donc on a besoin de toute votre aide militante pour diffuser les outils d'analyse historionomique. Voilà, on n'a pas de questions qui s'est rajoutée?
Non.
Non? D'accord. Eh bien, je vais vous dire à tous, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt pour d'autres formats et vous laissez pas faire.